L'actualité des Alpes du Sud avec le suspect numéro 1 après l'incendie de la gare de Château-Arnoux-Saint-Auban qui a passé la nuit en prison.
L'homme de 33 ans a été placé en détention provisoire à la suite de sa mise en examen par le parquet de Digne-les-Bains. Le bâtiment est toujours inutilisable en l'état. La SNCF, qui parle d'un incendie d'origine criminelle, a porté plainte. Le point en début de journal.
Des dizaines d'agents dans la rue hier matin, un gars pour protester contre leur direction. C'est la générale des finances publiques.
Accusés d'avoir préparé dans leur dos un plan de réorganisation des services publics, les syndicats qui avaient appelé à manifester redoutent une suppression d'emplois. Précision dans un instant.
Des contreparties demandées aux bénéficiaires du RSA en échange de leur allocation, c'est ce que souhaite Laurent Wauquiez.
Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes veut expérimenter au moins pendant 2 ans un système de droit-devoir. On verra ce qu'en pensent les présidents de département dans les Alpes du Sud. À suivre également la plaidoirie de la sénatrice des Hautes-Alpes Patricia Moret-Richaud en faveur de la ligne Gap-Grenoble. Et puis enfin les sports.
Et avec un petit coup d'arrêt des Diables Rouges de Briançon hier soir contre les Spartiates.
Les Marseillais filent avec une victoire au tir au but et se relancent dans la course à la qualification pour les demi-finales. On en reparle dans un instant, mais d'abord la météo, Thierry.
Eh bien, on aura du soleil pour ce matin et un risque de nuages et de flocons pour cette fin de journée. On en reparle dans un instant, ce sera juste après le journal. Et l'incendiaire présumé de la gare de Château-Arnoux-Saint-Auban, donc, a passé la nuit derrière les barreaux. Il a été placé en détention provisoire.
Décision du juge des libertés et de la détention après l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet de Digne-les-Bains. Le suspect, âgé de 33 ans, a été mis en examen pour destruction volontaire par moyen dangereux pour les personnes, vol avec dégradation et vol par effraction aggravée par une circonstance, lieu destiné au transport collectif de voyageurs. Selon le journal La Provence, le coffre-fort de la gare et des objets volés dans des véhicules stationnés sur le parking auraient été retrouvés dans la voiture de l'incendiaire présumé. Au moment des faits, le trentenaire était alcoolisé. Pour rappel, la gare de Château-Arnoux-Saint-Auban a été ravagée par un incendie dans la nuit de mardi à mercredi. La SNCF, qui parle d'un incendie d'origine criminelle, a de son côté porté plainte. L'entreprise a mis en place des bus de substitution pour permettre à la centaine de personnes qui fréquentaient chaque jour le bâtiment de se déplacer.
Dans l'actualité également, cette mobilisation hier des agents de la direction départementale des finances publiques des Hautes-Alpes.
Ils se sont rassemblés à l'appel de la CGT, de Force ouvrière et de la CFDT, objectif protester contre un plan baptisé « Bâtir un nouveau réseau ». Les syndicats accusent la Direction générale des finances publiques de l'avoir concocté dans leur dos pour réorganiser les services. Un plan qui aurait fuité en décembre selon les syndicats, qui pour eux aurait des conséquences néfastes pour les usagers et les agents. Antoine Dessin est militant CGT Finances publiques.
Par exemple, au niveau des services des impôts des particuliers, des services des impôts des entreprises, on veut les regrouper tous à Gap et faire ce qu'ils appellent des fiscobus ou mettre un agent de temps en temps dans des maisons de services publics qui feront la même chose qu'avant, mais dans des conditions déplorables.
De son côté, le directeur des finances publiques des Hautes-Alpes, Francis Pareja, confirme l'existence d'un plan élaboré par la direction générale qui a bien fuité fin 2018. Il était destiné en effet dans un premier temps aux directeurs départementaux, mais sa divulgation a précipité sa présentation au syndicat lors d'une réunion début janvier.
Mais parlons-en de ce plan, que prévoit-il exactement ?
Entre autres, une cartographie pour mieux connaître la situation des agents, notamment leur lieu d'habitation. Cela permettrait, selon la direction générale, de rapprocher l'administration des citoyens et des agents eux-mêmes pour assurer un maillage territorial plus équilibré. Selon Francis Pareja, des permanences pourraient ainsi être mises en place dans les mairies, par exemple, et de façon ponctuelle. Mais Antoine Dessin redoute que cela entraîne des suppressions de postes. D'après lui, les directions des finances publiques départementales ont perdu 30% de leurs effectifs en une dizaine d'années.
Ça veut dire que si vous avez un département comme le nôtre, où vous avez énormément de départs en retraite d'ici peu, que les gens habitent tous, enfin, s'ils habitent tous, par exemple, je vous donne un schéma extrême, mais près de Gap, eh ben ça ne les dérange pas de supprimer les services à l'Argentière, à Monnetier ou à Laragne, Vennes ou autre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bah, l'aboutissement de cette démarche, c'est purement et simplement de gagner des coûts par la suppression des emplois en perdant du service public.
30% d'effectifs en moins en 15 ans. Francis Pareja confirme le chiffre des suppressions qui devraient d'ailleurs encore se poursuivre.
Oui, et d'ailleurs, la Direction générale des finances publiques ne s'en cache pas. Hein. Elle ne fera en fait qu'appliquer Une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, celle de supprimer 120 000 postes dans la fonction publique.
Pour le moment, les directeurs départementaux des finances publiques ne savent ni où ni combien de postes seraient confirmés. Pour ce qui est maintenant du plan bâtir un nouveau réseau, rien n'est encore décidé. À ce stade, les directeurs des finances publiques départementales doivent élaborer des propositions. Leurs copies devront être validées à l'échelle régionale, puis nationale. C'est ensuite au printemps qu'une concertation devrait alors avoir lieu. Les agents, les corps intermédiaires et les élus locaux et nationaux se réunissent autour d'une table, après quoi la direction générale devra présenter au ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, une version finale pour une application probablement début 2020.
On parlait des services publics, Quentin, bien pour qu'ils soient plus accessibles aux Alpins, la préfecture et le département lancent un questionnaire.
Oui, c'est une idée à double détente. Les autorités cherchent à savoir d'abord s'il y a plus de satisfaits que d'insatisfaits pour ensuite mieux répondre aux besoins des personnes éloignées du numérique. L'objectif est d'ajuster la réponse politique dans le cadre notamment du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public. Pour trouver ce sondage, vous pouvez aller sur alpe1.com.
Et si les bénéficiaires du RSA devaient rendre un service en échange de leur allocation ? Ça, vous le savez, on en parle depuis un quelque temps. C'est l'idée d'ailleurs que défend le président d'ORA, la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Laurent Wauquiez aimerait que sa région pilote un programme de type droit-devoir pendant au moins 2 ans. Une initiative qui s'inspirait de ce qui se fait dans le Haut-Rhin depuis 2017. En contrepartie de l'aide, ces allocataires alsaciens du RSA peuvent être bénévoles et cela sur la base du volontariat. Mais l'idée clive la classe politique. Dans les Alpes du Sud, le président du département des Alpes de Haute-Provence, René Massette, n'écarte pas cette possibilité, mais il rappelle tout de même que des devoirs s'imposent déjà à ceux qui touchent le RSA.
On est en train de réfléchir à tout ça, puisque y compris dans le plan pauvreté que le gouvernement met en place avec le soutien du département, ça fait partie aussi de ces objets-là. Nous, on n'est pas fermés là-dessus. Et de toute façon, on fera ce qu'il faut en fonction des moyens qui sont les nôtres, mais on va regarder quelles sont les mesures qui sont préconisées par le gouvernement là-dessus et on verra un peu l'adaptation au plan local. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui se font et notamment, on donne le RSA en contrepartie d'un engagement du bénéficiaire d'avoir un projet de vie, un projet qui doit être validé par nous-mêmes. On radie à chaque réunion un certain nombre de bénéficiaires du RSA qui ne remplissent pas les conditions et leurs obligations en particulier, et la communication de ce qu'ils font.
Du côté des Hautes-Alpes, le président du département, Jean-Marie Bernard, estime que toute indemnité doit être reconnue par celui qui la reçoit. On l'écoute.
Je suis les expérimentations qui se passent sur le territoire français. Le Haut-Rhin a pris une initiative. Ça va se traduire peut-être dans le plan pauvreté qui a été annoncé par le gouvernement. Je pense que toute indemnité, toute rétribution, toute participation de l'État doit être reconnue par celui qui la reçoit. D'une façon ou d'une autre. Alors, de là à imposer des choses, je veux dire, aujourd'hui la loi ne le permet pas, mais c'est aussi un devoir citoyen. J'adhère aussi à ceux qui disent que quelqu'un qui touche le RSA devrait payer l'impôt sur le revenu, même symboliquement. Il y a des gens qui parlent de payer 1 euro ou 5 euros d'impôt, oui, parce que pour montrer que sa solidarité, la solidarité de tous les citoyens envers la société. Donc c'est au travers de ça. Moi aussi demain, c'est cette mesure pour les allocataires du RSA est mise en place. Ben je trouve que ça serait plutôt une bonne solution.
Voilà, dossier réalisé par Elena Saracani et Aurore Valori.
Fermer la ligne entre Gap et Grenoble serait une grave erreur, c'est ce que dit Patricia Morey-Richaud à François Philizot.
La sénatrice des Hautes-Alpes a rencontré ce mercredi le préfet chargé par la ministre des Transports, Elisabeth Borne, de réaliser un diagnostic sur la viabilité des petites lignes. La ligne Gap-Grenoble connaît des pics de fréquentation les week-ends et les vacances. Elle constitue une réelle alternative à la voiture individuelle à une époque où on estime entre 35 et 48 000 le nombre de décès par an dû à la pollution de l'air. Voilà ce qu'a plaidé l'élu Alpine, qui en fait également un enjeu de sécurité pour les automobilistes. La sécurité routière ne doit pas se résumer à des coûts financiers, ajoute-t-elle. Cette réunion a eu lieu alors que le gouvernement doit dire dans quelques jours s'il décide de participer ou non au financement de la ligne de train entre Gap et Grenoble.
Attention, si vous sortez en montagne aujourd'hui, plusieurs massifs du département sont passés en niveau fort risque d'avalanche.
Oui, c'est le cas du Tabor, du Pelvoux, du Champsaur et du Dévoluy. Le risque est donc de 4 sur une échelle de 5. Météo France annonce des chutes de neige la nuit dernière. Il devrait encore y en avoir aujourd'hui. Toute sortie en dehors des domaines skiables est donc déconseillée. La préfète des Hautes-Alpes appelle également les usagers de la montagne à renoncer en cas de danger.
Alpe 1 Sport.
Avec le hockey, eh oui, les Diables Rouges qui n'ont pas réussi à enfoncer le clou. Hier soir, contre les Spartiates, les Marseillais se sont imposés.
Les deux équipes étaient à égalité à la fin des prolongations. 3-3. Les Spartiates ont donc remporté ce 4e match de quart de finale de play-off de Division 1 contre Briançon. Au tir au but, des Briançonnais qui ont de quoi remâcher leur amertume alors qu'ils menaient 2-0 en début de match. Écoutez l'entraîneur des Diables Rouges, Claude Devez.
Oui, la victoire entre les bras, je pense que au point de vue du nombre d'occasions, je pense que c'est quand même beaucoup, beaucoup supérieur. Donc je pense que c'est comme ça depuis le début de la série. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'occasions et puis c'est le réalisme de Marseille qui a payé ce soir.
Pourtant, vous aviez bien dominé le premier tiers, vous avez eu beaucoup d'occasions, ce pénalty bien sûr les dernières secondes. Maintenant, dans quel état d'esprit, qu'est-ce qu'il faut d'ici dimanche pour aller gagner à Marseille ?
Déjà, dans un premier point, c'est physiquement bien se reposer, rester tout le monde ensemble. Je pense qu'il ne faut pas... Certes, ce soir, oui, on est déçu. On est déçu par rapport à la débauche d'énergie qu'on a fait, mais c'est ça les playoffs, c'est ça la magie des playoffs. Donc il reste un dernier match à aller chercher à Marseille.
Alors les Diables Rouges et les Spartiates se retrouveront pour une 5e et dernière confrontation dimanche soir. Ce sera à partir de 18h à Marseille. Le vainqueur de cette confrontation sera qualifié pour les demi-finales des playoffs de Division 1. L'équipe victorieuse rencontrera soit Dunkerque, soit le leader de la D1, Brest. Des Bretons qui ont d'ailleurs subi le même sort que les Briançonnais contre les Nordistes.
Alors quant aux Rapaces, bien eux devront être vigilants pour ne pas se faire déplumer par les Dragons ce soir.
Le coup d'envoi des demi-finales des play-offs de la Ligue Magnus, cette fois, sera donné à 20h30 sur le papier. Ce sont 7 matchs donc qui attendent les hockeyeurs gapensés contre les Rouennais. Une série qui peut être écourtée d'un côté comme de l'autre puisqu'il faut à l'une des deux équipes 4 victoires pour accéder en finale. Le deuxième match des demi-finales aura lieu ce samedi.
Ils ont entre 13 et 16 ans. Ils sont 5 et ils vont représenter ce week-end les Hautes-Alpes au championnat de France 2. Kung Fu, chou traditionnel et moderne.
Oui, Maël Pilon, 13 ans, Maïlis Digoud, 15 ans, Fleur Deboffle, 15 ans, Maïwen Pilon, 15 ans et Kristen Borel, 16 ans, vont donc prendre la direction de Deauville. Maël et Kristen qui iront défendre d'ailleurs leur titre de champion de France. Sébastien Pilon est ceinture noire 3e Dan, diplômé instructeur fédéral. C'est lui qui est l'entraîneur de ces jeunes accros. Écoutez-le.
Eux, ils sont sélectionnés uniquement en technique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combat. Ils présentent tous au moins 3 taos différents, puisqu'il leur faut un main nue, une arme courte et une arme longue. Et c'est un classement général, c'est-à-dire que sur les 3 taos qu'ils présentent, les 2 meilleures notes sont retenues et ça fait un classement général. Ce sont des enchaînements qui durent environ 1 minute 20, ils sont tout seuls sur un tapis et ils enchaînent un certain nombre de techniques de combat, mais dans le vide, c'est très codifié, hein, avec des coups de pied, des coups de poing, des sauts, des chutes. Au bout de 7 minutes 20 à peu près, il y a une note. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte, hein, donc tous les coups de pied, les coups de poing comptent, les positions, il y a énormément de positions de base, hein, la stabilité, la force, l'endurance, la prestance qu'ils ont sur le tapis. Voilà, tout ça, ça rentre en ligne de compte dans la note.
Sébastien Pilon, donc, diplômé instructeur fédéral avec Aurore Valori.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.